Mathieu Bock-Côté.
Il représente un segment très important de l'opinion publique.
Richard Martineau.
Tu vis sur quelle planète?
La Rencontre.
Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie.
C'est hallucinant.
La Rencontre. Bock-Côté. Martineau.
Mon cher Mathieu, je propose un moratoire sur l'utilisation du mot « liberté ». On arrête.
Oh! Non, non, surtout pas. C'est un beau mot, bien qu'on en fasse quelquefois un mauvais usage. Mais non, non, c'est un mot. Cela dit, je vois... En fait, le triste mot, c'est « liberté », comme oui, on disait oui. Au temps des insurrections de choix. Mais je pense que là, on va parler du mouvement des camionneurs qui suscite de l'intérêt au-delà même de nos frontières. Il faut éviter, je crois, bien qu'on peut avoir comme premier réflexe de dire « mais c'est quoi cette farce », il faut éviter de se contenter d'un moment de dérision par rapport à ce qui prend la forme quand même d'une forme d'insurrection, à tout le moins d'exaspération revendiquée par rapport au mouvement des mesures aux différentes mesures sanitaires. C'est depuis un bon moment, le commun des mortels était... Il était adhéré aux mesures, il y avait un mouvement d'opposition qui parvenait pas à se structurer. Et là, qu'est-ce qu'on voit, par exemple, avec Duhem? Et qu'est-ce qu'on voit avec les différentes manifestations en France? Et là, qu'est-ce qu'on voit avec le mouvement des camionneurs? C'est que ça permet, finalement, à ce sentiment d'exaspération devant les mesures, puis à ce qu'on pourrait appeler à la part rugueuse. Certains disent la part trumpienne pour se faire des peurs, mais bon, ça fait partie de la vie. La part très nord-américaine sur le mode « ma liberté prime avant tout », qui viennent trouver, je pense, une forme de vecteur politique ou de vecteur symbolique pour exprimer l'exaspération de plusieurs par rapport aux mesures sanitaires. Et on peut effectivement dire qu'il y a quelque chose là-dedans de grossier, de brutal, mais on aurait tort de se contenter de mépriser ce mouvement ou de se contenter de le tourner en ridicule parce qu'il y a suffisamment de gens qui s'y reconnaissent d'une manière ou d'autre pour qu'on soit obligé de le prendre au sérieux. Tous les mouvements dits populistes ont d'abord émergé derrière soit les cris indignés ou le rire à gorge déployé des élites. Et à un moment donné, boum, ça s'impose, on se demande ce qui s'est passé. Peut-être devrions-nous éviter de faire la même chose cette fois.
Oui, mais il faut être prudent. Comme me disait Jean-François Lisée ce matin, là, ce mouvement-là est rendu le mouvement des camionneurs. C'est un aimant là, qui est en train d'attirer tous les coucous possibles et impossibles.
Ah ben oui, et là tu dis l'essentiel. Parce que autant c'est un mouvement qui en lui-même exprime un malaise, tous les mouvements populistes qui émergent, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut le comprendre, tous les mouvements populistes qui émergent, ont un effet d'attraction inévitable. Je dirais tous les mouvements radicaux même, tous les mouvements d'opposition qui surgissent ont un effet d'attraction sur, comme tu dis, les coucous, les désaxés. Et là, dans le cas présent, on le voit, là, tout ce qu'il y a là, on va utiliser le terme de manière sérieuse pour une fois, de droite radicale au Canada, cherche à s'agglomérer, à se fédérer, à s'associer à ce mouvement, à le détourner à son avantage. Il faut se rappeler les Gilets jaunes aussi, c'était sur un autre registre.
Ben oui.
Au début, il y a les premiers Gilets jaunes qui sont sur le mode de l'exaspération, et très rapidement, l'extrême-gauche, les antifas, mais aussi des gens d'extrême-droite, puis des antisémites, tout ça, cherche à s'emparer du mouvement. Donc, tout mouvement qui naît, et surtout si c'est un mouvement de protestation, a un effet, je dirais, d'attraction inévitable des éléments les plus troubles de la société. L'erreur, c'est de le réduire à cela et de ne pas voir, de ne pas être capable de trier entre ce qu'on pourrait dire la colère populaire légitime qui s'exprime et ensuite sa déformation, son instrumentalisation, son retournement par ceux qui se disent l'occasion est trop belle, faisons quelque chose de ce mouvement.
Une chose est sûre, c'est lorsque tu es un politicien, et tu veux être pris au sérieux, il faut que tu te tiennes loin de ce genre de manifestation-là, parce que qui sait comment ça va retourner ce week-end?
T'as absolument raison, mais c'est pour ça que là-dessus, je pense que chacun a sa réserve, et ceux qui voudraient faire du millage, comme on dit là-dessus, risqueraient d'en payer le prix. Mais de l'autre côté, ceux qui, c'est pas le cas au Canada, sauf pour Bernier et Duhem, mais ceux qui considèrent qu'il faut assurer une traduction politique, ou appelons ça au scepticisme anti-mesures sanitaires, mais là, c'est, comme je dis, c'est pas un scepticisme qui s'exprime délicatement. Eh bien, ceux-là vont essayer de se coller au mouvement pour être capables de le canaliser vers eux. Mais à l'échelle de l'histoire, si on regarde quand poussent des mouvements de cette nature, eh bien, ça prend souvent cette forme-là. Hein. C'est-à-dire d'abord une colère, un effet d'agglomération. Ensuite, les politiques se demandent qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on le prend au sérieux? Est-ce qu'on deal avec ça, comme qu'ils diraient? Est-ce qu'on cherche à voir ce qu'on peut récupérer de ce mouvement dans notre politique? Est-ce qu'on se définit contre lui avec le côté Hillary Clinton qui parlait des... le basket of deplorables, les bon. C'est compliqué, gérer les sélections populaires. je lis ici et là des gens qui sont sur le mode justement d'une forme de condescendance souveraine. Puis je le redis, je comprends l'exaspération. Les anti-vax, franchement, c'est pas la frange de l'opinion qui est la plus éclairée. Mmh. Mais s'exprime néanmoins à travers tout ça, je crois, un ras-le-bol populaire qu'il faut entendre et qu'on ne saurait tout simplement balayer du revers de la main. C'est trop souvent l'erreur que font les démocraties devant les mouvements émergents qui portent en eux des choses contradictoires. Il faut chercher à avoir l'œil assez aiguisé pour voir, je dirais, l'impulsion derrière la déformation.
Écoute, tu sais à quel point j'aime les métaphores cinématographiques, Mathieu. On dit souvent, avec raison, que les camionneurs, ce sont les cow-boys des temps modernes. Hein. C'est des gens qui ne sont pas sur des chevaux, qui sont dans des camions, mais ils aiment la liberté et tout ça. Et je me dis, quelle sorte de cow-boy que c'est? Là. Est-ce que c'est Kevin Costner, qui est quelqu'un qui aime le peuple, qui est un populiste, mais dans le bon sens du terme? Ou alors, c'est quoi? C'est-tu les cow-boys de Sergio Leone, qui était des crackpots finis. Tu sais, quel genre de cowboy c'est, là?
Oui, ben, je pense qu'on est devant des gens qui, par le métier même qu'ils prennent, ne sont pas des gens qui sont portés à accepter les formes d'enrichimentement.
Non.
Il faut un désir de liberté très particulier, puis qui est tout à fait honorable. Hein. C'est un type de vie qui correspond à un certain type de tempérament. Et puis moi, je dis, parfait. Il y a des gens qui sont casaniers, d'autres qui ne le sont pas. Donc ça, et puis je pense qu'une société doit faire sa place à ceux qui ont justement ce type de tempérament. Puis j'oserais même dire que la vie publique doit faire sa place à ça. Puis c'est un populisme très nord-américain, hein, ce mouvement-là qu'on voit émerger un peu. Est-ce que ça va durer? Qu'est-ce que ça va donner? Mais c'est pas le populisme identitaire slash des Européens. C'est le populisme libertarien. Et le populisme nord-américain a toujours une dimension libertarienne. Il ne s'y réduit pas, mais il en est une des expressions. Et je pense que dans le libertarianisme nord-américain, ben oui, il y a la version Cato Institute, on pourrait dire la version raffinée, élégante et des deux côtes, Est et Ouest, mais aussi un libertarianisme rugueux qui existe aussi. Un libertarianisme qui est sur le mode back-off, un libertarianisme qui est sur le mode « c'est pas à l'État de me dire quoi faire de ma vie ». Et ça, c'est un des courants qui structure la culture politique nord-américaine au sens large. Et on croyait que le Canada était un peu immunisé contre ça, tout au moins certains croyaient. Ce qu'on voit en ce moment, c'est que ce mouvement est une forme de traduction de cet affect politique nord-américain qui trouve manifestement un écho au Canada dans le cadre de la crise sanitaire.
C'est très intéressant ce que tu dis, Mathieu, parce que tu sais, souvent, Justin Trudeau a tendance à parler au nom de tous les Canadiens en disant les valeurs canadiennes, c'est la solidarité, c'est la communauté, etc. Non, il y a d'autres valeurs canadiennes aussi qui sont un peu plus libertariennes, un peu plus individuelles et tout ça. Et ça fait aussi partie du tissu canadien, là.
Ah ben oui, puis dans l'Ouest en plus, pas seulement dans l'Ouest, dans les régions rurales, prends l'exemple des armes à feu. Alors moi, j'ai toujours dit, moi je suis pas très monsieur armes à feu, je considère que c'est normal que la police ait des armes à feu, puis pour le reste, je préfère être non. Bien que, dans les régions rurales, eh ben ils se disent souvent, attends, au nom du contrôle des armes à feu version urbaine, ou alors pour éviter de vrais drames, de vrais carnages comme on a pu en connaître, eh bien, on est en train de s'en prendre aussi à notre mode de vie, qui est un mode de vie qui est faute de chasseurs, un mode de vie, puis je ne suis pas de mode traditionnel sur le mode caricatural, mais ça fait partie de l'univers mental, cette intégration longue, la chasse appartient à la culture dans les régions rurales. Et on peut regarder ça avec condescendance, mais ils nous disent, mais voulez-vous bien cesser de nous encadrer l'existence à coup de règles bureaucratiques exagérées? Ça fait partie, mais on a une représentation tellement lissée, tellement fantasmée, tellement amidonnée, tellement, je dirais, ripollinée, radio-canadianisée du Canada, qu'on oublie que ces courants-là existent aussi dans le pays. Dans un pays normal, probablement qu'ils s'exprimeraient politiquement dans un courant, donc soit un parti, son expression est caricaturale avec le parti de Bernier. Au Parti conservateur, ils savent que ça existe, ces choses-là. Mais qu'en faire exactement politiquement? Parce que le propre d'une mouvance comme ça, c'est d'être assez rétive. Elle n'est pas portée, justement, à se laisser enrégimenter. Mais non, les valeurs canadiennes ne s'épuisent pas dans le discours du régime canadien. Le Canada est un pays comme tous les autres, avec ses courants libertariens, populistes, conservateurs. Le fait est que là, ils surgissent. On n'est tellement pas habitué à ça que ça vient bouleverser nos représentations mentales. Il y a une semaine, on en riait. Enfin, il y a quelques jours, on en riait. Puis là, désormais, on se dit, mais c'est peut-être sérieux. Qu'est-ce que c'est?
Tant à droite qu'à gauche, il y a une frange extrémiste. Mais c'est drôle, hein? La frange extrémiste de la droite, on va dire, toute la droite est contaminée. Toute la droite est extrémiste, alors que la frange extrémiste de la gauche, c'est une exception. C'est correct?
Oui. Ah ben, comme d'habitude. C'est-à-dire que j'en parlais récemment à CNews dans un édito. à droite, il y a toujours cette idée que la droite doit se faire un absolu moral de son refus d'être complice ou de coopérer avec une certaine frange d'elle-même. Alors qu'à gauche, puis avec raison certaines fois probablement, mais à gauche, les désaccords sont toujours circonstanciels mais jamais définitifs.
Oui, c'est
ça. Il
n'y
a pas une frange de la gauche qui serait à ce point contaminée qu'on ne pourrait pas lui parler. Il y a toujours, en dernière instance, ils vont toujours se rassembler dans le grand carnaval antifasciste en s'imaginant des fascistes partout. Et je dirais, dans le rapport de la gauche à Trump, on pouvait avoir de vraies réserves par rapport à Trump, de profondes critiques, mais considérer que les 74 millions d'Américains qui ont voté Trump étaient des fascistes, c'est du délire. Considérer que les farfelus du Capitole représentaient l'essentiel, la base, ou même le cœur du trumpisme, c'est du délire. Ils représentaient une frange radicale, mais 74 millions d'Américains n'étaient pas massés devant le Capitole sur le mode insurrectionnel. Mais c'est tellement plus rassurant de se dire, oh là là, puis on se construit des monstres imaginaires et puis on se donne l'impression qu'on est résistant. Tout ça finit par tourner à vide, mais la politique perd son contact avec le réel.
J'imagine nos amis français vont te demander sur les ondes de leur expliquer ce qui se passe au Canada, parce que ça doit les intéresser, là.
Ça commence. C'est-à-dire là, on n'y est pas encore, mais là, c'est dans les milieux très anti-vax que ça perce. Mais là, quand ça va culminer vers Ottawa, on va chercher à comprendre ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je pense qu'on doit tous chercher à comprendre ce mouvement-là. Parce que sinon, encore une fois, on va entendre le carrousel des sottises habituelles qui font qu'en dernière instance, on comprend pas grand-chose, sinon qu'on comprend qu'il faut se positionner moralement de manière avantageuse en disant « Ouais, ces gens-là sont pas beaux ».
Écoute, en terminant, bien sûr, c'est ton émission de CNews demain. On peut aller sur ta page Facebook et tu la publies toujours. Là, tu la mets tout le temps le lendemain. Alors, qui tu reçois aujourd'hui?
Alors, je reçois demain Anne Rosenchère. Anne Rosenchère qui dirige l'Express et qui vient de publier un très, très, très beau petit livre, Un chagrin français, qui est une réflexion sur la décomposition de la France, en fait, avec un sous-titre intéressant, progressisme, populisme, vivre ensemble. C'est trois mots qui nous empêchent de penser, des espèces de mots qui, finalement, sont utilisés de manière rituelle et nous empêchent de comprendre la complexité du réel. Donc, ça vaut vraiment la peine de lire ce livre et je la reçois demain avec grand plaisir.
Eh bien, ça va être intéressant. L'Express, c'est de gauche, non?
Je dirais que c'est l'icône du centrisme.
Okay.
C'est un peu centre-gauche, centre-droit, mais elle, si on la lit bien, elle est plus de culture, on pourrait dire, Mariam, qui aboutit à l'Express.
Okay.
Donc, elle a la culture gauche républicaine, la vraie gauche républicaine, la gauche, quel sens de la nation, de la République, de la verticalité, de la culture française. Pardon. Et elle défend ça, puis à l'Express, je pense que depuis qu'elle y est, j'y suis abonné, je pense qu'elle a donné une impulsion nouvelle à ce journal, et je lis l'Express avec beaucoup plus de plaisir depuis qu'elle le dirige, et son livre, comme je le dis, vaut vraiment la peine d'être lu.
Ben écoute, bonne émission, on va regarder ça, bien sûr, bon week-end, Mathieu.
Au grand plaisir, bye-bye. Salut.